Bonjour, c'est Sabrina Caron.
Je suis Danny Jugard.
Et vous écoutez les podcasts du Québec.
Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Dionella. Agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne.
Hey, salut tout le monde! Bon, comme vous le savez, je suis avec Sabrina Caron et son conjoint Danny Giguère pour nous parler un peu de leur ferme, de leur vie un peu en général. En passant, Sabrina, c'était les podcasts agricoles du Québec et non les podcasts du Québec.
Et là, c'est cool.
Là, à soir, on fonctionne par téléphone. Là, le téléphone est enregistré directement dans la console. Le son est peut-être pas optimal, parce que là, on a encore des internets de brousse. Moi, présentement, je suis rendu sur la fibre optique depuis aujourd'hui. Je suis vacciné, mais le 5G fonctionne pas, fait que j'ai été obligé de mettre la fibre optique pareil. Donc, hey Sabrina, Danny, ça va bien, vous autres?
Oui, ça va bien.
Ouais, super. Merci pour l'invitation, bien apprécié.
Ben oui, ça me fait bien plaisir. En passant, je vous remercie beaucoup d'être membre de mon Patreon. Oui. J'ai des podcasts qui sont exclusifs aussi là-dessus. Fait que je t'en veux d'en enregistrer un nouveau aussi avec Alexandre là, pour le Dionne et Couture, remettre les pendules à l'heure. Donc, hey, vous allez nous parler un peu de vous autres. On vous connaît quand même pas mal. Vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, là, mais... on veut en savoir un petit peu plus. C'est un peu le but du podcast. C'est, j'aime ça, faire découvrir du monde dans les podcasts. Ben,
nous, les premiers, on a aimé découvrir, entre autres, l'agroforestière, Marianne, si je me souviens bien de son nom.
Marianne Brière, mais... effectivement, oui. C'était une belle découverte pour moi aussi. C'est un de mes coups de cœur. C'est le gros coup de cœur que j'ai eu à venir jusqu'à date. Je veux rien enlever aux autres, là, mais... Ah non, Marianne était vraiment tripante.
Moi, je connais moins bien les séchoirs à grains ou ces trucs-là. J'ai apprécié le gars de Agrila, Grainwiz aussi. En tout cas, je suis devenue une fan rapidement... on tombait dans la saison des tracteurs aussi, fait que ça prenait de quoi écouter la radio, je suis plus capable, fait que c'est, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup, puis j'ai même des idées de gens que tu pourrais inviter à ton podcast que je te donnerai plus tard.
Ah, ben Colin, c'est le fun, merci beaucoup.
Je vais me présenter, moi, c'est Sabrina Caron, je suis copropriétaire de la ferme Roland Caron, c'était le nom de mon grand-père. Ferme Roland Caron, c'est une ferme laitière située à Laurierville, au centre du Québec. On a 140 kilojours maintenant, 400 acres en culture et 350 acres de forêt. Nous, on est dans une zone humide, là. On a des swamps sur nos terrains, fait que c'est pas de la très belle forêt. Fait que moi, à l'adolescence, dans le fond, je ne savais pas trop quoi faire dans la vie, mais j'avais été visiter l'école vétérinaire et l'ETA de Saint-Hyacinthe. Fait que là, quand j'ai été visiter ça, on dirait que j'ai senti la vie de l'agriculture. Puis j'ai décidé d'aller étudier à l'ETA, mais comme j'avais coulé un cours d'anglais secondaire 5, je n'avais pas été acceptée tout de suite, fait que je me suis ramassée à la Pocatière. Qui est quand même bien, fait que j'ai fait une technique en production animale à la Pocatière. Puis après ça, j'ai travaillé à la financière agricole, aux assurances, au PCSRA, anciennement l'ancêtre des agris, on pourrait dire. Puis, c'est ça, je fais quelques travaux avant de revenir à la ferme, parce que la ferme n'était pas... En tout cas, elle ne pouvait pas accueillir plusieurs salariés. Fait que c'est un peu ça, j'ai été travailler à l'extérieur avant de revenir à la ferme. Puis, à un moment donné, on a dit à mon père, là, on veut revenir, puis tout s'est enclenché pour ça. À la fin de l'été, j'ai rencontré Dani. Fait que là, je vais le laisser se présenter.
Bon, ben moi, c'est Dani Gigal. Je suis pas natif du milieu agricole. J'étais un petit gars du village, pas de l'Orléville, de Saint-Dégapi, dans le Binière. Le village, il y a une zone où on a déjà été super ensemble, là, Christian, lors du fameux tweet-up avec la semaine dernière.
Oui. Ben, c'est là que j'avais rencontré Sabrina aussi la première fois. C'était le 6 juin 2012, le premier tweet-up qu'on avait eu, oui. Elle t'avait laissé à la maison avec les enfants, je pense.
Non, j'étais là.
Non, t'étais pas là.
Je fais pas tout le temps ça. Oh, j'imagine, si tu t'en souviens.
Oui, j'étais là. Christian, je t'ai pas marqué parce que j'étais là. Fait que c'est ça, je suis natif du village, mais à partir de 14-15 ans, je me suis mis à travailler au foin et... travailler un peu ces fermes laitières, puis au fil du temps, je me suis mis à faire des remplacements sur ces fermes-là. J'étais quand même assez doué, là, là-haut. Les gars me laissaient, ils partaient en vacances, puis ils me laissaient à la ferme. Fait que, rendu après le secondaire 5, je m'étais inscrit en production bovine au CFA de Saint-Anselme. Fait que, en 99, j'étais allé au CFA de Saint-Anselme, je me suis inscrit en production bovine. Dans ce temps-là, je me disais... Ferme laitière, c'était quand même assez inaccessible pour moi. Fait que je m'étais dit, ah, je vais garder l'avenue du bœuf pour peut-être me partir en production bovine. Puis je travaillais pour les Danjou dans ce temps-là à Saint-Dégapi, qui avait quand même beaucoup de bœuf. Fait que j'avais pris cette avenue-là. Fait que sorti de l'école, je suis allé travailler dans l'Ouest canadien pendant une année pour apprendre l'anglais. Puis c'est là que j'ai rencontré Sabrina. Pendant que j'étais là-bas.
Sur les internets.
Sur les internets.
OK. Parce qu'elle n'a pas parlé de l'Ouest, elle, c'est pour ça.
Non, elle était ici. Puis on s'était rencontrés sur le fameux MIRC, qui était genre l'enceinte du Twitter. Du Tinder.
Sacrifice. Le piège à virus de MIRC.
Yes. Quand on s'est rencontrés dans... Pas de photos, pas de... En tout cas, à l'ancienne. Fait que ça a quand même cliqué vite. Puis elle sait qu'elle m'a convaincu de revenir au Québec. Fait que j'avais lâché ma job là-bas. J'avais revenu travailler au Québec sur une grosse ferme de mon coin, là, la famille Turgeon à Saint-Flavien. Au début des années 2000, c'était quand même une grosse ferme. 200 vaches laitières en salle de traite avec... mettons de temps graissement, genre de 300 truies plus engraissement. Tous les autres, il y avait beaucoup d'ouvrages là, puis c'était là que j'ai appris vraiment à travailler avec eux autres. C'était des gars qui faisaient tout, là. C'était des soudeurs, des mécaniciens. Là-bas, j'ai appris tout, les cultures, comment ça fonctionnait. C'était des gros travailleurs, tu sais, dans les roches de semences, des récoltes, tous les autres. Puis, quand ils annonçaient de la pluie, on pouvait se taper des 24 heures en ligne. J'ai beaucoup appris d'eux autres. J'ai fait quand même 5 années chez eux. Je travaillais temps plein d'été. L'hiver, je revenais ici à la ferme, aller à Sabrina, jusqu'en 2005. Je suis revenu à temps plein ici. J'ai lancé là-bas. Je suis revenu à temps plein ici. Puis c'est là qu'on a préparé le projet de l'étape de 2009 qui a brûlé l'année passée.
OK, elle était bâtie depuis 2009, cette étape-là.
Oui. C'est ça. Ça fait pas mal le tour de mon moi.
De ton toi.
Fait que si on poursuit, dans le fond,
yes.
En 2009, on a mijoté quelques années le projet de construction. On voulait se moderniser. Moi, j'ai jamais aimé les animaux attachés, c'est un goût personnel, là, mais nos vaches y allaient au pâturage jusqu'en 2003. En 2003, on les avait comme entrés à l'intérieur parce que les pâturages pratiqués par mon père, mon grand-père, c'était du pâturage extensif. Puis c'était mal installé, si je regarde ça du point de vue d'aujourd'hui. Là. Puis c'était pas l'idéal, tu sais, de la manière que c'était géré. Fait que, puis en étant été à l'ITA dans les années 2000, on dirait qu'à l'ITA, ils nous ont appris une sorte d'agriculture, puis c'était l'agriculture performante.
OK.
Et ça prend du rendement, il faut faire du lait. Oui, on étudie les données technico-économiques, mais on dirait que tout dans ce temps-là passé, si tu as une grosse moyenne de lait, tu vas faire de l'argent puis tu vas être rentable. Fait qu'on avait un peu cette mentalité-là à ce moment-là. Puis, moi, j'étudie beaucoup les chiffres, puis j'analyse. Puis là, il faut avoir le plus de rendement au champ, le plus de rendement dans l'étage. Je suis très axée rendement. Fait que, on s'est dit, on va construire une étable en stabulation libre qui était quand même, vu qu'on ne voulait pas engager personne, avoir des employés éventuellement, on s'est dit, on va mettre des robots de traite. T'sais, les premiers robots de traite sont arrivés dans les années 2000 au Québec.
Oui.
Mais en 2008-2009, c'était quand même pas fréquent encore. Là. C'était la stabulation libre, elle avait une mauvaise réputation parce qu'il y avait eu des constructions faites un peu tout croche ou pas. On avait peu de connaissances, fait que c'était pas parfait. Fait qu'on a étudié le dossier longtemps, fait qu'on a décidé d'aller de l'avant avec une construction. Parce que nous, les bâtiments, là, c'était des archidômes en acier. Tu sais quoi, un archidôme en acier? Là, c'était...
Ouais, un dôme rond, bon, un dôme.
C'est un garage, mais là, nous, c'était l'étable pour les vaches à lait. Tu sais. Fait que...
T'avais besoin d'une vraie mise à jour.
Ouais, c'est ça. Mon grand-père avait monté ça dans les années 70, puis là, c'était vraiment dur. Ouais. Fait que là, on construit une étable en stabulation libre. Avec litière de sable, parce que j'avais étudié beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis, parce que je me disais, eux, ça fait longtemps qu'ils sont en stabulation libre, puis ils doivent d'être bons. Fait que moi et Dani, on a même été dans un voyage, on est allé étudier les fermes là-bas. Fait que c'est ça. Fait qu'on a construit ça, on a démarré ça, puis ça a tout de suite bien été. On était performants, ça allait bien. Au départ, il manquait un peu de quota pour dire que l'étable était bien pleine. Puis finalement, avec les progressions de quota qu'il y a eu dans les années 2015, 2017, 2018, ben là, on s'est mis à ajouter un deuxième robot. Puis là, on a eu des problèmes. Puis on avait finalement changé de sorte de robot en 2019. Pour finalement passer au feu le 16 mars 2020.
C'est vrai, les robots tanneux, eux autres, là.
Ben, ouais, c'est ça. Les nouveaux robots, il y avait un an, trois mois, quand on a passé au feu. Fait que quand, en 2009, on a décidé de construire, à ce moment-là, on a décidé d'abandonner un peu le volet machinerie, mais pas que c'est pas nécessaire, mais c'est un mal nécessaire, selon moi.
Ouais.
Fait que là, on a limité les investissements de ce côté-là. Fait qu'on s'est tourné vers le forfait et la CUMA. Puis je pourrais laisser Dani expliquer comment on fonctionne de ce côté-là.
Ben, quand on a construit l'étable en 2009, on avait presque toute notre machinerie, tank à fumier, une vieille fourragère et les bois de vivant. T'sais. On avait pas mal tout. Tout ce qu'on faisait faire en forfait, c'était des dates. Les arrosages, puis une semis, on louait des planteurs où il y avait un gars qui venait planter. Fait que là, je me suis fait approcher pour acheter la part dans le climat de Laurierville d'un producteur qui s'est fait tirer du planteur à maïs. Fait que j'ai rentré en même temps dans ce climat-là, du planteur à maïs, puis tout de suite, j'ai cliqué. J'ai aimé le principe de ça, ça va aussi de la CUMA, pour se rendre finalement, aujourd'hui, on doit avoir peut-être 14 branches. On doit être membre de 14 branches de la CUMA de rien là. Tout ce qu'on possède, on a tout vendu la machinerie. Tout ce qu'on possède maintenant, c'est la faucheuse, nos tracteurs, puis mal ça. Hein,
et... Ouais.
À Fait que tout le reste est rendu en cumeau ou en copropriété. On a la fourragère des boîtes, on est en copropriété. Au début, on était allé à forcer un peu, mais ça revenait cher. Puis on a rentré dans le cumeau. Ça nous a permis de connaître nos coûts de production. Avec la cumeau, je ne veux pas. Tu as le coût réel de ce qu'elle coûte, la machine. Tu as une facture à l'ordre de ce que tu
fais. Oui, c'est ça. C'est ça, comme j'en ai parti une Kuma dans mon coin, là. On n'en avait pas. Proche, là, on n'en avait pas. On est comme dans un trou de zone où il n'y avait pas de Kuma, pantoute. Puis même à partir de chez nous, mettons, jusqu'à Saint-Hyacinthe, là, même jusqu'à Montréal, il n'y en a pas ben. Tu sais, ça avait été plus développé, là, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de la Beauce, puis un peu sur le bord comme Laurierville, là. Mais c'était plus dans ce coin-là, puis ça arrive nord aussi, mais dans notre coin, on n'en avait pas.
Non, je pense qu'il y a plein d'avantages à ça. Vito Warwick, ils viennent de partir des premières Kuma dernièrement. Là, c'est... Mais c'est pour quelqu'un qui a toujours eu sa machinerie, je comprends la crainte de tout ça. C'est pas toute rose non plus, la Kuma, mais au fil du temps, j'ai compris qu'il fallait s'associer avec des producteurs qui ont un peu la même vision que nous autres. Fait que, tu veux pas, toi, travailler jour et nuit. Pour te dépêcher à finir tes semences pour pouvoir. Parce que tu sais qu'il y a encore une fenêtre de beau temps que le voisin, lui, pourrait se servir du planteur, mais toi, tu plantes toute la nuit pour qu'il aille le lendemain matin une carotte de planter, mais tu repasses dans l'après-midi, puis il est encore parti en avant de la détrie où si tu l'as laissé, c'est sacré un peu de que tu. Fait qu'il faut que tu apprennes à. Faut que tu travailles avec du monde comme toi.
C'est ça. Tu vas pas t'associer avec du monde qui... C'est ça, tu vas pas t'associer avec du monde que tu sais qui répareront rien ou qui vont en briser ou quoi que ce soit, là. Tu choisis ton monde aussi.
Tu sais, il faut que tu sois prêt à faire des compromis aussi, là, tu sais. Oui. C'est pas fait pour tout le monde, mais nous autres, ça fitait bien. Fait que, c'est ça. Fait que dans Kuma, maintenant, on a un planteur à maïs, on a une batteuse qui vire 3 000 arbres par année. On a chamois 1590, limite. Tout ce qui manque, dans le fond, tout ce qu'on donne à forfait maintenant, c'est les arrosages d'herbicides, puis le fumier.
OK.
C'est avec un gros pas du coin, là, que le tank est fini. Fait que, on a déjà regardé en Kuma pour y aller, mais on n'a pas assez de volume pour équivaloir au prix de ce gars-là. Là, puis, on est quand même un bon service, fait qu'on vaut pas l'avantage.
Quand il arrive avec une grosse équipe, des fois, une journée, c'est fait. Si tu fais ça tout seul, tu vas en avoir pour la semaine.
Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, on a des temps quand même assez loin. Fait que je voulais pas revenir à Kuma pour finir. Des fois, on n'a même pas fini les foins. L'éteinte et la pompe sont déjà arrivées et nous suivent en arrière de nous autres. Fait que, non, je...
Ah, ça a de l'allure, ça. Fait que là, passer au feu en 2020, c'est sûr que là, quand l'étape a brûlé, bon, désolation, puis tout, c'est sûr qu'on passe un mauvais coton. Je le vis un peu présentement parce que mon beau-frère a passé au feu v'là une semaine, samedi passé. Fait que là, bon, je l'ai dépanné, il a sauvé pas mal de stock, il est venu porter ça dans un bâtiment chez nous. Mais là, on s'entend que c'est des animaux. Là, on parle de pas mal de gros sous. Là. Une maison, oui, c'est cher, mais l'étable, c'est vraiment d'autres choses. Là. Puis là, quand vous avez c'est sûr que là, bon, tu regardes ça, oui, c'est sûr que vous allez rebâtir. Vous n'avez pas assez de terre pour faire de la grande culture, quoi que ce soit. Là, est-ce que vous avez rebâti? Est-ce que vous allez rebâtir comme vous étiez avant? Ou vous avez pris votre temps, visité plusieurs étables, pour voir, bon, qu'est-ce qu'il y avait dans l'ancienne étable qui vous achalait peut-être, puis versus la nouvelle, comment que ça s'en vient? C'est un peu ça que je voulais explorer avec vous autres.
Oui, bien, dans le fond, la vieille étable, en tout cas, celle qui a brûlé, elle n'était pas parfaite, mais elle allait super bien. Mais en 10 ans, les étables de stabilisation libre, tout a évolué à vitesse grand V, la technologie sais tout. Fait que c'est sûr que le matin qu'on a pris, tu sais, quand on a passé au feu, le soir même, je calculais comment ça coûterait reconstruire. Tu sais, sur le coup, il fallait reconstruire, mais dans les jours suivants, on s'est posé la question, est-ce qu'on construit vraiment? Tu sais, mais
ouais.
Compte tenu qu'on a 39-40 ans, on s'est dit, puis on a 400 autres en culture, mais 200 à nous, 200 en location. On s'est dit que peut-être qu'il faut faire d'autres choses dans la vie, quoi, qu'on a d'autres projets. Ça aurait été possible de ne pas reconstruire, mais on aime vraiment notre production. Fait que là, on s'est dit, on reconstruit. Mais là, en plein COVID, tu sais, le 16 mars, quand on a passé au feu, le vendredi, tout avait arrêté là, au Québec. Là.
Ah ben oui, c'est quasiment la première journée du lockdown, ça, là.
Le vendredi, les enfants, plus de hockey. Nous aussi, plus de hockey, plus d'activité, plus de social, plus rien. Le lundi soir, on passe au feu. Ah, fait que nous, là, du jour au lendemain, notre vie, elle a changé parce qu'on avait comme pas plus rien à faire. On avait encore des champs, mais ça a vraiment été un choc.
Ouais, oui.
Après ça, on a quand même sauvé des animaux, fait qu'on a replacé ça. Malgré le COVID, au moins une centaine de personnes est passée nous voir pour nous donner leur soutien. Ça, c'est incroyable. Même le soir de l'incendie, j'ai des flashbacks de gens qui sont venus que je connais plus ou moins, mais il y a plein de monde qui sont venus pour voir, mais pour aider aussi. Puis, le lendemain de l'incendie, tu rencontres les assurances. Fait que là, tu catches que tu es bien assuré.
Ouais.
Parce que il y a ça aussi qui est dans l'enjeu. Nous, vu que c'était une étape récente, c'était valeur à neuf.
OK.
Donc, puis vu qu'on est quand même très endettés, nous, entre 2009 et 2020, la ferme laitière a plus que doublé, en fait. On est passé de 60 kilos à aujourd'hui 140. Fait qu'on n'avait pas les moyens de se réendetter. Mais comme Danny avait déjà suivi un cours d'assurance que je recommande à tout le monde, je ne sais pas si tu te rappelles du nom du formateur. En tout cas, c'est
un... Avec la relève à l'école, j'avais suivi ça. Là. On amenait nos polices d'assurance, puis on ouvrait ça, puis le gars étudiait ça avec nous, puis il disait, ben, on faisait les grandes lignes. D'après ça, il nous passait quasiment un par un, tu devrais faire ci, puis ça, puis ça quand même... beaucoup aidé. On était quand même très bien assurés.
Fait qu'à chaque année, par rapport à la formation que Danny avait suivie, on révisait nos assurances, on révisait les coûts de si on a reconstruit. Fait que ce côté-là, ça se fait bien été. Ça enlève un poids des épaules parce que le soir, tu passes au feu, tu te dis « Hey, faut-tu que j'aille travailler au McDo le matin? Je vais être capable de me donner un salaire la prochaine année? » Il y a plein de questions qui passent. Fait que, c'est ça. Puis là, la décision de reconstruire se prend, mais on reconstruit pas exactement comme on avait parce que ça fait déjà 10 ans qu'on est en réflexion. J'ai comme une dualité. Est-ce qu'on vire bio? Il y a l'agriculture régénératrice qui est arrivée au travers de ça. Ou est-ce qu'on reste standard? Ça faisait plusieurs années que je voulais virer semi-direct. Là, présentement, on est à notre troisième année cette année.
OK.
On a fait du travail et de sol réduit pendant les 7 autres années, je dirais. On avait un agronome prévu à ce moment-là qui semblait pas vouloir évoluer aux engrais verts. Et ouais, c'est bizarre. En tout cas, selon lui, on n'avait peut-être pas les sols pour le semi-direct, mais en tout cas, nous, on voulait vraiment aller dans cette avenue-là, puis les engrais verts, ça nous parle beaucoup. Fait que si on vire comme ça dans le champ, on s'est dit que ce serait intéressant de virer un peu comme ça dans l'étable. Fait que de là est partie la réflexion. Pourquoi nous, ben dans le fond, quand on entend parler de l'industrie laitière, les fermes laitières, quoi les principales critiques qu'on reçoit? Fait que on les a énumérées. On se fait dire les vaches vont plus dehors.
C'est tout le temps la première chose qu'on entend. Pourquoi Pourquoi les vaches n'avaient plus d'or?
Les vaches attachées, mais ça, on avait déjà réglé ce dossier-là. Il était déjà libre, mais il n'allait pas dehors. Puis j'ai un autre établissement où est-ce que les génisses, ils allaient dehors, hiver comme été. Puis à chaque fois que je les voyais dehors, ça me faisait plaisir. Je ne sais pas comment te dire, mais ça me fait du bien de les voir dehors une journée d'hiver, qui fait gros soleil. Ils vont se planter dehors au soleil, se faire bronzer. Oui, mais tu sais, je trouvais ça beau, puis j'aimais ça voir ça. Fait que ça faisait quelques conférences aussi bio que j'assistais pour voir. Mais là, dans le bio, le travail du sol me dérangeait beaucoup. Mais je pense qu'un jour, on va pouvoir être bio, puis pas faire de travail de sol, mais moi, je suis pas une testeuse dans la vie. Moi, je suis tout de suite après les testeurs.
Tu laisses les autres se planter, puis après ça, OK, ça marche, on va le faire.
Ouais, je le dis pas comme ça, parce que, exemple, Sébastien Anger qui t'a reçu.
Oui.
Moi, je suis une fan de Sébastien, ça fait longtemps.
S'il y a quelqu'un qui en essaye des patentes, c'est Sébastien.
C'est ça. Moi, lui, je pense qu'on devrait même le payer pour ce qu'il fait.
Oui.
Parce qu'il fait avancer l'agriculture à sa façon. Mais moi, je suis pas game de faire ça parce que je calcule trop mes affaires.
On est trop conservateur.
Je suis moins artiste que lui dans sa façon, sa façon de faire. Il est un artiste de la terre, mais moi, je suis une copieuse. Fait que, en tant que copieuse, j'aime pas ça faire trop d'expérience. Fait que je pense que peut-être qu'un jour, on va pouvoir être bio sans travailler seul, mais d'ici là, je vais travailler plus sur le côté agriculture régénératrice. Puis, c'est ça. Fait que pour répondre aux critiques qu'on a en production laitière, les vaches vont plus dehors. On sépare le veau de la mère, ça, on se le fait dire régulièrement.
Tout ça pour mettre du lait dans notre café le matin.
Ouais. Après ça, on se fait dire, ah, les veaux mâles sont tués ou envoyés à l'encan tout de suite. Le veau boit dans une chaudière, il n'a pas accès à sa mère. Fait qu'on a tout mis ça dans un pot. Puis même moi, je suis très fan de bien-être animal. Puis je dis pas que dans d'autres modèles d'étable, les animaux sont pas bien. Mais moi, dans ma vision de l'agriculture, dans notre vision, parce que j'ai réussi à convaincre Dani. Ouais,
c'était pour ça au début, moi, là. J'ai dans notre mondial, mais elle a fini qu'à me convaincre. Puis j'ai mis les conditions aussi.
Mais tu sais, c'est pas d'être... Tu sais, on pourrait voir ça un peu grano, mais je pense pas que c'est grano. Moi, j'ai une vision de l'agriculture, puis je pense que l'agriculture régénératrice, puis l'agriculture en général, c'est une des solutions pour les problèmes environnementaux qu'on a. Puis dans ce sens-là, il faut se servir de ce qu'on a. Nous, on cultive la terre, puis on a des animaux, pour faire notre part là-dedans. Fait que c'est ça un peu la vision derrière notre nouvelle étape.
OK.
Mais alors, rien de révolutionnaire, dans le sens qu'il existe déjà des étapes comme on va construire. Fait que afin de permettre que les animaux aient dehors, ben là, avant, on avait une ventilation tunnel. C'est un côté de l'étable qui est ouvert, tu as des fans à l'eau bout, puis l'air est aspiré. Là, si je veux ouvrir des portes de garage pour que mes vaches puissent aller dehors, ça soit qu'une ventilation, tout dépendant du sens de l'étable. Fait qu'on avait comme pas le choix de transférer de ventilation tunnel à ventilation naturelle.
OK.
Mais comme il fait de ça, c'est les murs, les côtés ouverts, toutes les portes de garage ouvertes. Fait que pour pouvoir envoyer les vaches dehors. Mais comme il fait chaud, la ventilation naturelle, quand il fait chaud au Québec, ils ne vendent pas nécessairement.
Ouais.
Fait que là, on a ajouté des fans recirculatrices partout dans l'étable afin de ventiler les vaches pour qu'ils soient bien quand il fait chaud.
Ça, c'est comme des grosses fans qu'on voit au plafond, c'est ça?
Oui, mais il y a plusieurs modèles. Là. Nous, on a choisi un modèle, là. C'est le Cyclone de Ventec, mais peut-être qu'on s'est trompé, là. Je vais te le dire dans 3 ans. Mais tu sais, c'est ça, quand tu construis, là, tu fais plein de choix, choisis des affaires que tu n'as pas explorées. Fait que nous, l'été passé, on a passé l'été à visiter des étables. Les producteurs nous ont reçus malgré le COVID, puis ils sont super gentils. On a visité beaucoup. Puis on se promenait avec un bidule qui calcule la vitesse des vents. On allait devant les flammes, puis on checkait comment loin, puis comment large ça faisait. Puis on a vraiment étudié les flammes, puis les ventilations. Là. Puis on faisait exprès pour y aller quand il faisait super chaud, pour vraiment avoir l'efficacité.
L'économie d'énergie et tout. On étudiait l'économie d'énergie, qu'elle consommait plus, qu'elle consommait moins. Ça a été pour la ventilation, ça a été quand même un très gros casse-tête. Tout l'été, on ne savait pas encore qu'est-ce qu'on voulait et qu'est-ce qu'on ferait. On a vraiment tout regardé les modèles, toutes les compagnies un peu pour avoir
fait notre choix. Puis j'imagine que quand tu demandes au producteur, puis tu aimes ça tes fans, il va dire oui, tu arrives ailleurs, c'est un autre modèle. Ah oui, je les aime. Là, à un moment donné, ouais, c'est dur de se faire une tête quand tout le monde, j'imagine, sont satisfaits de leurs produits.
Ouais, exact. Fait que, tu sais, nous, on s'était mis des critères. Exemple, pour la ventilation, on veut sur la vache 400 pieds minute. Fait que là, c'était à nous de déceler quelle fan ferait la job pour avoir le 400 pieds minute. Puis là, après ça, on voulait réduire les coûts énergétiques. Fait que là, on a étudié les forces des moteurs puis comment ça prenait du jus pour faire virer ces fans-là. Fait que, tu sais, on a fait un gros travail de ce côté-là.
OK. Fais-tu rentrer le 550 à la ferme? Ou tu l'avais déjà, j'imagine? Je sais pas.
Non, on l'avait pas. Puis on l'a fait rentrer dans le nouveau projet.
OK. Parce que c'est un moteur dans le triphasé va consommer moins de courant qu'un moteur monophasé. Fait que déjà là, tu as une économie en partant.
Mais on avait toujours regretté, en 2009, quand on a bâti le premier bâtiment, on était comme assis entre deux chaises, on parlait avec l'électricien, puis là, il dit, toi, en robotique, t'as des silos, il dit, toi, t'auras pas une grosse consommation de courant en même temps. Et finalement, nos comptes d'électricité avaient explosé, là, on avait passé genre de 6-7 000 par année à des comptes de 24 000. Hein.
Ouais, mais là, c'est ça.
Oui, mais quand même, hein, tu sais, on aurait dû rentrer le 550 à ce moment-là, moi, on n'avait pas fait. Puis après ça, une fois qu'il est déjà installé, ça a été même trop coûteux, mais commencer à rentrer des transfos ici et là. Puis là, il ne nous restait rien. Fait que c'était plus facile de repartir à zéro. C'était sûr qu'on partait en 550.
Ben oui, s'il passe au chemin en plus.
Oui, il passe au chemin. Il passait très dans la porte. Là,
ouais, là, dans ce temps-là, c'est plus vraiment une question, surtout ces années-ci. Avant ça, nous autres, on était encore. Tout le plan de séchage est sur le 2,40. On avait, puis le 5,50 passait au chemin. Là, je le fais rentrer cette année, puis là, je vais faire des changements de moteur au fil des années. Là. Mais, tu sais, j'imagine que mon père avait tout le temps été mal conseillé là-dessus, c'est ce que je prétends. Là.
Ouais, surtout vous autres dans les plans de séchage, c'est tous des gros moteurs.
Là, ouais, bien, dans ce temps-là, c'était des petits silos avec des fans de trois forces. Mais là, quand il a rentré le séchoir continu, ça n'aurait pas été une mauvaise affaire de faire rentrer le 5,50 à ce moment-là. Mais tu sais, encore là, ça marchait. Fait que ça marche, hein? Si tu fais, on a des fils d'un zère, moi je suis pas rien qu'une toile d'araignée chez nous.
Fait que si on continue, dans le fond, pour le nouveau bâtiment, chaque point, l'entreposage des fourrages, la fosse à fumier, qui ça faisait 10 ans qu'elle était trop petite, tout a été réétudié de fond en comble. Parce que nous, on est comme ça, on étudie tout le temps beaucoup avant d'acheter, on n'achète pas sur un coup de tête, on va vraiment prendre le temps d'étudier. Fait que... c'est ça. Fait que là, nos vaches vont pouvoir aller dehors. Est-ce que je vais les envoyer au pâturage 100% tout l'été en partant? Non. Parce que, comme j'ai dit tantôt, quand on fait des changements, on y va doucement. Fait que là, on va les envoyer peut-être 2 heures par jour quand il fait beau. Puis après ça, on va voir quel modèle de ferme on développe. Mais on y va essai-erreur, mais on essaie de ne pas faire de trop grosses erreurs. Après ça, ce qui va avoir de particulier, c'est que avant, dans le fond, quand une vache bêlait, on prenait le veau le plus vite possible. Ben, en tout cas, elle lichait, là, mettons, là, puis après ça, on y enlevait. ce qui est bien normal. C'est souvent pour pas qu'elle blesse, tout ça, parce que des fois, elles sont intenses puis ils pissent dessus.
Okay.
Fait que là, au lieu de retirer le veau, on va le mettre dans une genre de huche, pas de toit, dans le parc de bêlage. Fait que la mère, ben, la vache, va avoir accès visuellement et elle va pouvoir le licher aussi pendant 2 jours.
Dans le fond, il va y avoir comme un enclos dans le parc.
C'est ça, exact. Puis s'il fait froid, je vais y mettre un petit globe rouge pour qu'il sèche. Puis c'est comme avant, je faisais. Mais il va avoir ça de plus. Les vaches vont toujours aller au robot. Ils vont être toujours sur la litière de sable. Il va avoir encore des tapis dans l'allée. Avant, on avait un soigneur automatique, mais il était électrique. Dans le fond, il y avait une paille électrifiée. Là, on va avoir un Lely Vector. Lui, il se promène au sol. Il est à batterie, dans le fond. Fait que lui, il va faire des rations régulièrement aux vaches, des petites rations, puis il va les pousser l'ensilage régulièrement. Fait que ça, c'est une nouveauté. Puis, on va faire des tests. On construit une pouponnière assez grande pour étudier les mères nourrices. Dans okay. le fond, une vache aussi. Ouais. Une vache holstein, ça fait, mettons, en moyenne 40 kilos. Une vache à 40 kilos peut nourrir 3 veaux. Parce qu'un veau, ça boit 12-13 litres par jour.
OK.
Fait que je vais prendre une vieille vache, une vache qui est maternelle, puis au lieu, mettons, de l'envoyer à la réforme ou... je vais comme prolonger sa vie ou lui donner le paradis de la vache pour ses dernières années. Puis là, je vais la mettre dans un parc puis je vais lui donner 3 génisses.
OK. Qui vont aller têter après ou...
Ouais, exact.
Ah, c'est intéressant.
C'est très... Ça existe déjà. C'est pas... ça... J'en vois parler de plus en plus, surtout les fermes biologiques. J'ai parlé à Marie-Pierre Gosselin de la ferme au Gré des Champs qui font des fromages aussi. Elle utilise cette technique-là depuis qu'elle a son nouveau bâtiment et elle est enchantée. Il y avait un reportage à la semaine verte. J'ai tout pris l'information, mais je vais continuer comme avant. J'avais des louves. Dans le fond, le veau va dans une cage, son tag est détecté, puis la machine dit « Oh, lui, il a droit à 2 litres. » Fait que là, il fait son 2 litres avec le poudre de lait ou du lait entier, c'est selon. Puis là, il buvait sa ration, puis il avait le droit d'aller jusqu'à 12-13 litres par jour. Ça, c'était comme ça qu'on était déjà installé. Ça allait super bien. Mais... avec les nouvelles recherches, avec le fait qu'un veau est avec une vache adulte, ça imite le comportement. Dans le lait, il y a des hormones de croissance qu'il n'y a pas dans le lait en poudre. Fait que c'est un peu comme l'allaitement humain.
Ouais.
Que, il y a eu un bout que, tu sais, moi, ma mère, je pense que c'était du lait en poudre qu'elle m'a donné parce que dans les années 80, c'était ça la mode, tu sais. Puis là, dans les années, ben, en tout cas, dans les années 2000, on a comme fait. Ah, finalement, l'allaitement, c'est pas que c'était mieux parce qu'il y en a qui peuvent pas allaiter, puis c'est pas de leur faute, puis ça, ou il y en a qui aiment pas ça, puis c'est bien correct. Mais ils ont vu que dans le lait maternel, puis dans le comportement, la proximité avec les bébés, il y avait quelque chose de bien, puis c'est un peu ça qu'on ramène aux vaches. Les vaches à bœuf, ils font toutes, dans le fond.
Ouais.
Mais tu sais, vu que la vache à bœuf, elle fait 4000 kilos de lait par année, ben elle, un veau ou deux, des fois ils ont des jumeaux, ben c'est suffisant. Fait que nous, c'est ce qu'on va explorer dans la prochaine année. Est-ce qu'on va aimer ça ou pas? C'est à voir. Ça a été long de convaincre Dani, mais là, je pense que je l'ai convaincu. Il a l'air à vouloir.
Non, mais sans pour autant faire un switch vers le biologique. Tu peux t'en inspirer. Tu sais, c'est un peu ça que tu fais, là.
Exact.
T'en inspirer, mais l'objectif aussi de ce bâtiment-là, c'était d'être prêt à toute éventualité si on voulait venir biologique.
Ouais,
c'est
ouais.
Le commentaire que tous les fournisseurs nous disent. Ils disent « Ah, votre étable est comme prête pour le bio. » Mais oui, elle est prête pour le bio, mais c'est ça. C'est d'aller chercher le meilleur de chaque technique, tu sais. Puis il y a des bonnes choses dans le bio, puis il y a des bonnes choses qu'on faisait déjà. Puis c'est ça, ça.
C'est le mix de conventionnel et de bio un peu qu'on va faire.
OK. Ah, c'est sûr qu'on que... peut s'en inspirer, il n'y a pas de problème là, là. Même si c'était pas bio, mais si jamais le jour où tu le fais, ben tu vas déjà avoir la base, si tu veux, d'une certaine façon.
Puis tu sais, nous, on avait la vision de voir dans l'avenir. Là, l'étape qu'on construit là, on avait dit ça à l'autre, mais là, en théorie, c'est la dernière qu'on construit, nous, de notre parcours entrepreneurial. Dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être quoi la production laitière? T'sais? Fait qu'on a essayé d'établir une vision par rapport à ça, puis de se dire que l'incendie qu'on a vécu, de tourner ce drame-là en du positif. Puis le positif qu'on voyait là-dedans, c'était de bien positionner l'entreprise pour le futur.
OK, ben oui.
Fait que c'est dans cette vision-là qu'on a fait nos choix.
Là. C'est un peu ça qui nous a aidés aussi à cheminer après l'incendie. On s'est quand même remis sur pied rapidement. On s'est dit, ça ne donne rien de s'accrocher à ce qu'on avait. Là, oui, c'était pas facile, là, mais tout de suite de se rembarquer dans la planification du nouveau bâtiment, dans les semaines suivantes, on était déjà là. Fait que ça nous a comme aidé à penser à autre chose, puis plus au positif qu'à penser à l'événement négatif qu'on a eu.
Puis question de même, vu que là, l'étable va être rendue à ventilation naturelle, est-ce que son orientation a changé par rapport à l'ancienne étable où ce qui était située?
Non, là, pas mal dans. On a étudié ça aussi, on a étudié les vents dominants.
J'ai installé des petits rubans dans mes arbres pendant un été pour étudier la direction des vents. Mais.
Selon Environnement Canada, les vents n'étaient pas comme tout à fait dans le vent dominant, mais chez nous, de la manière que les bois sont placés, ça fait comme dévier le vent, puis le vent, finalement, rentre direct dans le bâtiment, dans le sens du bâtiment qu'on était, puis qu'on a refait dans le fond.
OK.
Puis, dans le fond, en réutilisant la même base de bâtiment, dans le fond, après l'incendie, ils ont enlevé les résidus et le béton. Mais en dessous de ça, il y a 10 ans, on avait excavé. On avait mis beaucoup de sable. Fait qu'en gardant le même emplacement, l'étable, la nouvelle étable est 26 pieds plus large puis 82 pieds plus long.
OK. Oh boy!
Mais c'était pour s'ajuster aux nouvelles normes de bien-être animal que c'est plus grand. Puis, en décidant de construire une nouvelle fosse, on inversait, au lieu de faire revenir le fumier par en avant de l'étable, mettons, on l'envoie dans l'autre sens. Fait qu'une étable laitière, ça a une pente généralement de 1%.
Oui.
Donc, que le liquide coule, c'est un dégât d'eau, ben ça coule, puis les lisiers, le fumier dans la raclette aussi. Fait que là, en inversant la pente, on réutilisait le stock qu'on avait placé il y a 10 ans, puis ça nous faisait sauver beaucoup sur les coûts d'excavation.
Parce qu'on était à contre-pente avant. Le terrain descendait, puis nous autres, on remontait l'étable. Là, si on rallongeait encore de 84 pieds, il fallait quasiment nous remonter encore d'un autre 3-4 pieds l'étable, plus le terrain qui descendait. Fait que là, on l'a viré de bord, puis on a suivi le terrain. Fait que quasiment tout le matériel que j'avais en dessous de la liaille, j'ai tout retiré dans le sens de la pente naturelle du terrain. Fait qu'on a sauvé des gros coûts d'excavation. Puis j'avais tout excavé quasiment moi-même. Ça a coûté une bagatelle d'excavation pour un bâtiment de cette grosseur-là.
OK, OK. Puis ensuite de ça, quand tu dis que tu vas t'envoies tes vaches dehors, les portes vont rester ouvertes. Fait que si la vache veut aller se faire traire, en retournant dedans, puis elle s'en va au robot.
Ben, c'est ça. Au début, on va. On va faire des tests parce que j'ai pas les champs nécessaires pour alimenter 100 vaches à 100% du pâturage.
Ouais, ok, ouais.
dans les fermes bio qu'on a vues, il y en a qui laissent les vaches la porte ouverte toute la journée, puis il n'y a pas de barrière, là, ils rentrent, ils sortent quand ils veulent, mais ils mangent quand même à l'intérieur. Pour commencer, on va les envoyer le soir vers 6 heures, puis on va les rentrer vers 8-9 heures. Puis éventuellement, là, c'est ça, ça va être nos essais-erreurs, on va voir comment ça fonctionne. Tous les autres animaux aussi vont avoir accès à l'extérieur, c'est qu'on va pouvoir les alterner. Le jour, on pourra envoyer des génisses quand il fait pas trop chaud, les tarifs, fait qu'on on va avoir un système de clôture vraiment 2021. Là, tu sais, j'ai étudié, c'est tout, c'est un autre, le pâturage, c'est une école en soi. Là, je fais plein de lectures à ce sujet-là. C'est vraiment intéressant, capter le carbone. Il y a Phil Riley que je suis sur pâturage régénératif. Je pense que ça s'appelle le groupe. En tout cas, je suis sur plein de groupes Facebook là, par rapport à ça, puis j'étudie la chose. Mais c'est ça, ça semble être quand même un défi. Fait que on va faire des tests un à un, puis dans quelques années, je pourrais plus te dire c'est quoi notre choix final. Mais tu sais, je sais qu'une journée de canicule ou une journée de pluie, pour avoir déjà envoyé les vaches au pâturage, les voir attendre sur le bord de la porte, c'est pas l'idéal pour elles. Fait que je pense que l'idéal, c'est de leur laisser le libre choix. Mais là, après ça, il faut gérer la nourriture, faut pas que ça chauffe, faut que tu en prennes assez dans tes silos, faut. C'est ça. Ça prend assez de pâturage pour que tout le monde mange. Il faut qu'il y ait une certaine longueur, le pâturage. Fait que, c'est vraiment. En tout cas, on va explorer ça dans les prochaines années, mais aujourd'hui, je ne peux pas te dire comment ça va finir.
Oui, ça, je me souviens, quand on avait des vaches, le matin, on les envoyait dehors, puis on fermait. Il n'y avait plus d'accent dedans. Quand tu revenais le soir pour faire le train, mais ils étaient tout de suite au bord de la porte. T'sais, on les envoyait dehors. Tu fermes tout, puis. Il n'y avait pas d'accès au bâtiment, mais on avait des vaches attachées aussi là, dans le temps. Là. C'était pas comme aujourd'hui. Là.
Moi, je veux pas avoir des vaches non plus qui sont pleines de mouches, qui ont les seins. On veut pas avoir les désavantages du pâturage, les grosses chaleurs, les mouches, tout ça. C'est pour ça qu'on veut choisir les périodes qu'on va les envoyer. Parce que au début, moi, j'avais eu de la misère à me convaincre de tout ça, parce que moi, c'était l'image que je me faisais du pâturage. Moi, je voyais juste les désavantages. Mais quand on est allé à la ferme Louis d'Or, à Saint-Élisabeth de Warwick, lui, il est en robotique, il a le même modèle d'étape que nous autres. Puis ils envoient, lui, ses vaches à une courte période, chaque jour, un peu, je sais pas si j'ai oublié quand est-ce qu'ils envoient. Là, ça me parlait. Là, j'ai cliqué, j'ai dit oui, ça m'intéresse.
Oui, OK, je pensais que tu allais parler, Sabrina. Non, parce que tu approchais le téléphone de ta bouche, mais c'est parce que je te vois pas dans la caméra, c'est pour ça.
C'est sûr. Hein? Je voyais bien que tu... Mais c'est ça. Fait que ce côté-là, c'est ça. Il y a aussi les veaux mâles qu'on se fait critiquer d'envoyer à l'encan. Il y en a qui pensent qu'on les tue à la ferme, ce qui arrive pas, en fait.
Ben non.
Justement, ils s'en vont à l'encan. Mais là, comme on a trois enfants, puis ils grandissent, puis tu sais, comme mon plus vieux, il fait des citrouilles, puis il vend les citrouilles sur le bord du chemin, puis on vend un peu d'œufs comme ça sur le bord du chemin. Ben, je dis sur le bord du chemin, mais on est sur le bord de la route française. On met une pancarte, puis ça se vend sur le libre service. Fait que là, on se disait peut-être que ça serait intéressant. De croire. Parce que nous, dans le fond, on n'élève pas toutes nos génisses. Dans les vaches moins intéressantes génétiquement pour nous, on met des bœufs Angus, un croisé bœuf.
OK, OK.
Là, on s'est dit, peut-être que ça serait intéressant d'élever ces bœufs-là ou même nos vaches de réforme. Tu sais, les faire transformer chez le boucher, puis les vendre à la ferme.
Okay.
Peut-être éventuellement aussi transformer le lait. Tu sais, fait que c'est un petit peu. on essaie, parce que dans les dernières années, on était vraiment, avant de passer au feu, on avait une écœurantie aiguë de tout le monde qui nous siphonne de l'argent tout le temps. Payer un, payer l'autre, on est comme tanné, puis on essaie de sortir de ça. Fait que, tu sais, éventuellement, produire tous les grains pour nos vaches, ça serait comme le... pas le rêve, là, mais ça serait vraiment, tu sais, vraiment...
Faire la roue, tu sais, alimenter avec nos grains au complet.
Oui, être complètement autonome.
Oui, être complètement autonome.
Je sais pas, tu sais, transformer notre soya pour le soigner aux vaches au prix qu'il y a actuellement, tu sais, c'est un pensez-y bien, mais tu sais, il est peut-être, là, je sais pas, le prix du jour, là, j'ai pas checké sur Greywiz aujourd'hui, mais tu sais, admettons qu'il est à 500$ la tonne, si je le vends pas, mais moi, il me coûte pas ça à produire, là.
Non, fait c'est ça.
Si j'aurais une machine intéressante, fiable, qui serait capable d'en extraire une portion d'huile puis de le cuire, puis que je soigne à mes vaches. Il y a une machine qui existe, mais en tout cas, c'est en développement. Je trouve que ça serait intéressant. Puis dans un visé d'agriculture régénératrice, ben là, tu as du transport, tu viens boucler la boucle. Mais tu sais, ça, c'est... On ne peut pas tout faire en même temps, tous nos projets, là, parce qu'on va virer fou. Fait qu'on y va un projet à la fois. Puis c'est toutes des idées comme ça qu'on a dans le collimateur. Fait que qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a beaucoup d'idées.
C'est sûr que là, présentement, les grains sont chers, mais au moins, tu n'as pas encore d'animaux. Fait que ça va peut-être le temps de baisser avant que tu en ailles, là. Je te le souhaite. C'est le fun pour nous autres, là, mais on s'entend que, tu sais, honnêtement, là, c'est plate pour les consommateurs d'une certaine façon. Là.
Ben, nous autres, on est du même bord que toi cette année. Tu sais, on a semé moins grand de foin, on a moins grand d'ensilage de maïs. Fait que on va faire du maïs grain et du soya. On a quand même pas mal de soya déjà de bouquet là, pour vendre à l'école. Fait que c'était la bonne année pour nous autres, là, mais. Mais l'an prochain, en espérant que les prix en baissent ou qu'on se met à transformer ou en tout cas, on va voir ce qu'on est rendu.
Ou avoir des opportunités, des nouvelles terres qui se pointent dans votre coin.
Ah, oh, les terres dans notre coin, Christian, là.
C'est rendu à quel prix dans votre coin?
On a pogné 10 000 piastres de l'orgue cette année.
Ah, c'est quasiment un aubaine.
Non, parce que t'as pas idée de ce que ça a de l'air.
Non, c'est ça, là.
C'est, on a beaucoup de boisé, beaucoup de milieux humides. Fait que quand t'as un champ de 30 acres, là, hey, c'est un grand champ. C'est un grand champ, là. Fait que c'est notre plus grand, en fait, là. Parce qu'ici, il y a toujours un cours d'eau pour couper un champ. Il y a toujours un bois pour couper le champ. Des beaux champs rectangulaires sur le long, là, on n'a pas ça ici. Là. C'est très carré. C'est beau.
Les autres, c'était des. Comment ils appelaient ça? Les Français, c'était des seigneuries. T'sais, on avait appris ça à l'école. Les autres, c'était des planches bien étroites, bien longues. Tandis que nous autres, c'était plus des styles cantons.
OK, vous êtes. OK, ah ouais?
Parce qu'on est à côté d'Inverness. Puis Inverness, c'était anglophone, ça, dans le temps. Fait OK. C'est ça. Fait qu'ici, il n'y avait pas comme de seigneurie. C'était des terres plus carrées, plus moins longues, plus... C'est ça. Fait que... C'est quoi qu'on disait là-dessus?
1 000. Les cantons de 1 000 par 1 000.
Ouais, mais là, 10 000 piastres de l'acre, ben celle qui s'est vendue ce prix-là, ben, c'est pas correct. Ben, en tout cas... Pour la terre, ça a du sens si on compare au prix des terres à Victo ou dans d'autres coins. Mais autour de notre ferme, si c'est pas des terres que c'est déjà des producteurs laitiers qui possèdent, parce que c'est majoritairement des producteurs laitiers, c'est des producteurs de vaches à bœuf semi-retraités ou qui n'ont jamais investi dans leurs terres. C'est pas drainé. C'est pas nivelé. C'est pas.
Il y a beaucoup d'amour à mettre, là.
Oui, c'est ça. Il y a des tas de roches. Il y a. Comment je pourrais dire ça? Ça n'a pas été labouré depuis 40 ans. pas de chaud. C'est très acide. C'est... Fait que... S'ils nous demandaient 10 000 piastres de l'offre, c'est un minimum de 2 500-3 000 piastres de l'offre à réinvestir pour la placer correct. Tu peux pas dire on repart en semi-direct là-dessus, puis go, parce que c'est tout croche, là. Il y a des vallons, il y a des... Ça.
Un trou et une butte, ça te prend une chaîne quand tu vas à l'RC. Ça marche plus, là.
Ou t'es tout le temps en train de contourner.
Ouais, non.
Enfin.
C'est des fois, on en reparlait de ça dans les années 90, puis avant. C'était normal, quand on allait à RC, on se traînait une chaîne, parce que des fois, on restait pris, on contournait des ronds frais, des affaires de même. Mais aujourd'hui, là, moi, mon tracteur, c'est le planteur. Il n'y a plus de roue double. J'ai plus besoin de roue double. Tu sais, j'étais en travail réduit, puis semi-direct. Puis j'ai des ronds frais, là. Je connais plus ça à cette heure-là. J'en ai plus. J'ai plus de ronds frais, puis je nivelle encore mes terres parce qu'il y a encore des imperfections à mon œil, là, tu sais.
mais c'est v'là 2 ans qu'on a eu le printemps mouilleux. Moi, il me semble que c'est v'là 2 ans. Mais là, j'en ai fait le tour des rondouettes. C'était pris à quelques places. Le printemps avait été tardif, on n'avait pas eu le choix. À un moment donné, on a dit on peut plus attendre. On était rendu le 15 de mai, on n'avait rien fait encore. On avait dit cette année, on fait le tour des rondes brettes, on n'attendra pas que c'est.
Ouais, 2019, ça avait été assez tardif. Ouais, il mouillait gros, ouais, c'est vrai. Il y avait une temps que j'avais semé le 2 juillet, moi, parce que ça inonde à Bétufèvre.
Il faut dire que Danny est plus stressé sur le semi. Moi, je me branche sur la page à Paul Caplet. Je le situe sur la carte, puis il écrit « Je suis pas stressé d'aller semer ». Fait que moi, je suis très calme. Moi, je lis Paul, là, puis je me dis « Si Paul n'a pas semé, moi, à Laurierville, c'est pas grave, là, tu sais, ça peut attendre. » On n'est pas toujours d'accord sur les dates de semis, là, mais moi, je me promène avec mon thermomètre. Là, c'est mon arme ultime. Puis là, j'y envoie des photos. Puis quand c'est pas prêt, c'est pas prêt. Fait que on s'en remet à ça, mais des fois, c'est ça, c'est plus serré avec la météo et le type de champ qu'on a. Là. On a un champ de pain noir, entre autres, là, qui est... c'est quelque chose, là, mais tu sais... Il faut apprendre à vivre avec.
Donc, Sabrina, Danny, je vous remercie beaucoup. Ça va être tout pour tout de suite. Puis, on va continuer le podcast, mais ça va être disponible seulement sur Patreon. Donc, abonnez-vous au patreon.com/podcastagricole au pluriel. Donc, sur ce, ben, je vous dis bye-bye. Puis, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Puis, partagez sur vos réseaux sociaux. Aimez ça, aimez la page Facebook également. Puis Sabrina, Danny, merci beaucoup.
Merci.